Comment le projet de l'autoroute A69 va-t-il évoluer, Isabelle Duché?
C'est un long roman, c'est une longue histoire. Je ne vais pas vous la chanter ce matin, mais c'est cette longue histoire qui est celle de la construction de l'A69. Rappelez-vous, le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé les autorisations environnementales de l'autoroute. Les travaux avaient donc cessé. 3 mois plus tard, le 28 mai, la cour d'appel de Toulouse a estimé que la construction de l'autoroute répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur. Les travaux pouvaient donc reprendre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et c'est cette question que nous vous posons ce matin. Thierry Cottel, vous êtes premier vice-président de la commission Économie, Emploi, Innovation et Réindustrialisation et membre de la commission Urgence climatique de la région Occitanie. Bonjour Thierry Cottel.
Bonjour.
Raison impérative d'intérêt public majeur et motif sérieux sont les deux éléments sur lesquels est fondée l'annulation de la décision du tribunal administratif. Thierry Cottel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvrent ces deux conditions à la reprise des travaux? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, il y a une interprétation en réalité d'un texte de loi, des textes de loi qui sont maintenant relativement flous, du coup qui sont le reflet en fait d'un empilement de plus en plus important en fait de mesures liées uniquement à la question environnementale, qui fait qu'à un moment donné, il y a effectivement une possibilité d'interprétation pour les juges de savoir si l'intérêt public majeur est réellement vérifié ou pas. Donc en fonction de ce qu'on imagine comme étant l'intérêt public majeur, eh bien on se fonde sur une décision au final qui, des fois, ne prend pas en compte l'ensemble donc, du sujet que l'on qu'on est en train de juger.
Mmh. Et un motif sérieux?
Un motif sérieux, le motif sérieux, alors, je ne sais pas si c'est votre question, c'est de savoir en fait si je considère que c'est un motif sérieux.
Oui,
ou
enfin,
pas.
Quel est-il en tout cas pour ce projet de l'autoroute à 69?
De ce que j'ai compris, c'est en fait l'impact environnemental que cela pourrait avoir comme effet négatif. C'est ça le motif sérieux de ce que j'ai compris du jugement qui a été apporté. Je rappelle. Fait suite en fait à tout un tas de procédures relativement longues et répétées qui ont toujours confirmé que ce projet était important pour le sud du Tarn. Mmh.
Et un des avocats le magistrat indépendant qui était chargé d'éclairer les juges dans leur décision a fait un parallèle entre ce projet de la 69 et le canal du Midi en disant que c'était finalement un projet qui était long, qui s'inscrivait dans le très long terme et qu'il ne fallait pas forcément voir les choses avec un prisme très, très, à très court terme.
Disons que chaque fois qu'on fait en fait un grand projet de cet ordre-là, il y a forcément des conséquences locales, environnementales qui sont
évidentes.
Il ne faut
pas le nier.
Il ne faut pas le nier. Alors, dans la construction, et après, il faut regarder aussi dans son fonctionnement. Bien évidemment, quand on regarde uniquement le fonctionnement et les voitures qui vont utiliser cette autoroute, on peut considérer qu'effectivement, il peut y avoir un impact environnemental négatif de long terme sur le fonctionnement. Maintenant, il faut regarder un peu quels sont les avantages de cette voie rapide, sécurisée, et regarder dans quelle mesure elle apporte un plus, non seulement économique, social, mais également aussi environnemental sur l'ensemble en fait, du sud du Tarn, et d'une manière beaucoup plus globale sur la façon dont on aménage le territoire dans notre pays.
Mmh. Alors, nous avons reçu à ce même micro Christine Arrigui, députée du groupe écologiste et social de Haute-Garonne. Elle considère que l'A69 est une autoroute de confort puisqu'elle ne répond pas à un besoin de désenclavement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en tout cas lui répondre?
Le besoin de désenclavement, moi je le vois, il est relativement évident. C'est un territoire qui a perdu plus de 1500 emplois en 10 ans, qui a perdu également aussi de la population quand on regarde au global sur l'ensemble du bassin Castres-Mazamet. Donc il suffit aussi de se projeter un peu plus dans le temps pour considérer que c'est un élément qui permettrait, alors c'est pas une condition qui est suffisante, mais c'est une condition nécessaire au développement économique du sud du Tarn. J'insiste là-dessus parce que une autoroute, ça ne fait pas développer d'un point de vue économique un territoire. Il faut aussi d'autres mesures d'accompagnement. Il faut une forte volonté politique. Il faut avoir une vision globale aussi du monde dans lequel on vit, de façon à pouvoir aussi avoir des conclusions qui permettent de justifier un intérêt public majeur, ne serait-ce que sur la question environnementale. Quand on regarde un petit peu la façon dont on aménage notre territoire, je voudrais poser la question à Mme Arrigui de savoir si ça ne lui pose pas de problème de voir que chaque année, sur l'aire urbaine de Toulouse dans laquelle elle vit, nous artificialisions 3 à 69 par an depuis 20 ans.
Pour des constructions.
Pour des constructions. Et pour.
Oui, mais il y a, oui, y a des besoins.
Pour continuer, en fait, l'hypermétropolisation qui fait que nous avons des territoires entiers qui sont désertifiés un petit peu partout et qui devraient, au contraire, être des éléments d'équilibre aux métropoles qui ne cessent, en fait, de concentrer l'ensemble des problèmes de pollution, de logement. De prix de plus en plus important, qui fait que nous avons un étalement urbain systématique et quasi automatique. Et c'est là-dessus que j'aimerais discuter avec Christine Hergy pour savoir si elle a une opinion par rapport à ça.
L'invitation est lancée et pourtant, vous parliez de la population qui baissait dans ce territoire du Tarn, mais pourtant les données de l'INSEE indiquent que le taux de chômage est de 7,7% inférieur à celui de Montauban ou de Carcassonne. Donc finalement, c'est une région qui certes a une population qui baisse, mais en tout cas qui n'a pas une population active qui baisse.
Parce qu'il y a encore un petit équilibre qui s'effectue. Après, attention à l'interprétation que l'on a des chiffres. Je prends l'exemple de la région Occitanie, où on pourrait constater que, et on constate que le taux de chômage est beaucoup plus élevé que dans un certain nombre de régions, tout simplement parce que la région est particulièrement attractive et qu'on accueille plus de 45 000 habitants par an. 45 000 habitants par an de gens qui viennent travailler, s'installer, c'est aussi devoir créer 25 000 emplois pour que le taux de chômage soit toujours celui que l'on a à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'on a des régions qui sont particulièrement dynamiques. Après, le bassin Castres-Mazamé est un bassin aussi qui a son petit équilibre économique. Mais je rappelle aussi qu'il y a une grosse entreprise comme le laboratoire Pierre Fabre qui ont fait un choix, plus exactement le dirigeant a fait un choix tout à fait personnel d'être attaché à son territoire. Oui. Et on doit d'ailleurs le développement économique à cette entreprise-là. Alors, évidemment, pour certains, c'est toujours des grands patrons, les méchants, etc. Mais il faut quand même reconnaître que le choix de rester, d'avoir le siège social, mais également aussi de continuer à se développer dans un territoire auquel il était particulièrement attaché, a fait que Castres-Mazamé continue d'avoir, et c'est fort heureux, un développement économique qui ne soit pas celui d'autres villes moyennes qui, par contre, n'ont pas eu cette chance-là.
Mmh. Et vous parlez de cette entreprise Pierre Fabre, et certains disent que cette autoroute ne servirait qu'à déplacer ces salariés de Pierre Fabre entre Castres et Toulouse. Est-ce qu'il y a une autre activité économique qui justifie aussi cette autoroute?
Elle est à créer aussi. C'est-à-dire que, d'une manière générale, encore une fois, si on faisait véritablement l'aménagement du territoire, on donnerait d'autres conditions à ces territoires pour qu'il y ait l'implantation d'un certain nombre d'entreprises.
En région Occitanie,
nous essayons d'inciter en fait les entreprises à s'installer sur les friches industrielles, justement pour éviter l'artificialisation des sols.
Donc
on a une incitation, on va dire financière, mais c'est un symbole un petit peu politique. Mais il n'empêche que certaines entreprises l'utilisent et s'installent sur d'anciennes entreprises qui malheureusement ont fermé ces 40 dernières années. Je rappelle quand même nous avons plus de 40 ans de désindustrialisation. Tout le monde parle de réindustrialisation. En réalité, la tendance n'est pas à la hausse. Malgré tous les discours, nous sommes toujours dans le fragile équilibre de cette industrialisation qui malheureusement ne décolle pas et qui serait nécessaire, ne serait-ce que d'un point de vue environnemental. De ça également, j'aimerais bien parler avec Christine Hergy, de façon à ce qu'elle puisse aussi avoir une vision globale de l'impact environnemental de tous les produits que nous importons depuis des années. Le dernier chiffre, c'est 46% de nos produits que nous importons. Les 46% de nos rejets de gaz à effet de serre sont liés à des produits que nous importons, c'est-à-dire des produits qui sont... alors quand je dis importer, c'est pas simplement leur transport de Chine ou des pays du sud-est asiatique, c'est également aussi des produits qui sont fabriqués avec une énergie particulièrement carbonée. Partout dans le monde, il y a une énergie carbonée qui est utilisée et nous continuons d'importer ces produits-là.
Oui.
Voilà. Donc qu'a fait Mme Hergy, qu'ont fait les écologistes depuis 30 ans, 40 ans à vouloir systématiquement critiquer les projets industriels et surtout à associer leur soutien à l'Union européenne qui reste le seul espace économique particulièrement ouvert qui voit donc les importations massives venues de ces pays-là, encore une fois, où l'énergie qui est utilisée est une énergie carbonée.
Vous dites, Thierry Cottel, qu'il faudra développer un bassin d'emploi autour de cette autoroute à 69 pour qu'il n'y ait pas que cette usine, cette entreprise Pierre Fabre et ses sous-traitants. Est-ce que...
Ben déjà qu'elles se maintiennent.
Voilà, et qu'elles se maintiennent. Est-ce qu'il y a déjà des projets d'installation d'entreprises?
Il n'y a pas de projet particulier de grosses entreprises qui s'installent. Ça n'existe plus, ce genre de choses. C'est-à-dire, en fait, on continue à développer l'activité qui existe déjà et que nous n'avons pas encore perdue. Donc, les laboratoires Pierre Fabre en font partie. Le secteur aéronautique en fait partie. Le secteur spatial en fait partie. Mais il y a finalement très peu de secteurs, en réalité, en France, où on a encore de l'industrie. Regardez l'automobile qui est en train de se mourir de décisions complètement scandaleuses, de devoir travailler sur uniquement la voiture électrique, et on voit les conséquences que ça a, c'est-à-dire l'importation massive des voitures chinoises sans contrepartie, c'est-à-dire sans système de régulation nous permettant de maintenir notre activité industrielle automobile. Donc il y a tout un tas d'entreprises petites et moyennes qui sont dans la partie sous-traitance, mais également aussi qui sont capables de pouvoir fabriquer des produits propres. Donc je crois qu'il y a une stratégie à avoir au niveau national, on le fait aussi au niveau régional, c'est-à-dire de regarder les filières qui sont encore debout dans ce pays, mais également aussi peut-être sur un certain nombre de produits qu'il faudrait pousser parce qu'ils sont particulièrement intéressants et encore dans la compétition économique.
Ouais, c'est un travail à construire.
Alors, c'est un travail à construire permanent. Ouais. Et encore une fois... Avec des villes moyennes qui n'attendent que ça, c'est-à-dire revivre et de permettre de regagner les emplois qu'elles ont perdus. Regardez ce qui s'est passé depuis les années 70.
Et de gagner en autonomie et pas être dépendante d'une grande métropole.
C'est ça. Donc il y a un travail aussi important. La métropole toulousaine a aussi une responsabilité par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire de continuer en fait à inciter le développement économique sur la métropole toulousaine?
C'est un autre sujet. Suite à la décision de la Cour d'appel de Toulouse, le ministre des Transports, Philippe Taboureau, avait annoncé la reprise du chantier pour mi-juin. Bah, nous y sommes, nous sommes le 11 juin. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe sur le terrain?
Alors, je n'ai pas de nouvelles précises, mais comme je les ai comme vous, c'est-à-dire que j'entends un certain nombre d'opposants devoir...
Oui, il y a eu deux incendies déclarés.
Voilà, devoir s'opposer donc à ce projet-là dans les manifestations, voire même dans l'obstruction en fait, du chantier. Non, je pense qu'il va falloir raison garder par rapport à ce qui va se passer. J'espère que la reprise des travaux se fera dans des conditions acceptables. Je pense notamment à l'ensemble donc, des salariés qui ont été en chômage technique, voire même qui ont été licenciés parce qu'on a arrêté ce chantier. Donc il faut aussi tenir compte de cet aspect-là des choses si on le regarde uniquement sur le court terme.
Est-ce que vous avez une idée, Thierry Cottel, de l'enveloppe nécessaire pour maintenir ce chantier avant sa reprise? Quelles sont les conséquences de son arrêt?
Alors, après, ce sont des chiffres qui sont évidemment à vérifier, mais tout le monde comprend bien que lorsqu'on arrête comme ça un chantier, il y a des conséquences économiques et sociales, j'en parlais tout à l'heure, mais des conséquences économiques aussi importantes pour les entreprises qui travaillaient là-dessus. Bon, je pense qu'on va limiter les dégâts de ce point de vue-là si le chantier reprend relativement vite. Maintenant, il faut véritablement le finir. Voilà. Encore une fois, ce chantier... n'aurait pas dû exister si on avait eu une forte volonté politique de faire une deux fois deux voies. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on n'en parle jamais, que la deux fois deux voies se construit entre Toulouse et Auch, a un impact écologique important, sans que personne, ni même Madame Arrigui, ne s'en émeuve.
Plus qu'une autoroute alors?
Ah ben, c'est une deux fois deux voies. Enfin, je veux dire, après, il y a la question évidemment du paiement et de la concession privée. Je ne vais pas vous expliquer que je suis content de la concession qui a été donnée en fait à un privé. Je condamne justement même le fait que les autoroutes aient été concédées au privé. Mais la réalité des choses, encore une fois, elle est celle-là, donc il faut faire aussi avec. Après, si demain il y a une nationalisation de l'ensemble des autoroutes françaises, je ne serai pas forcément opposé, mais ça c'est un autre sujet.
Oui, c'est un autre sujet. Merci beaucoup Thierry Cottel. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de la commission commission économie, emploi, innovation et réindustrialisation et aussi membre de la commission urgence climatique de la région Occitanie. Vous intervenez ce matin pour, à propos de la reprise, la prochaine reprise des travaux de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.
Merci pour votre invitation. Merci pour votre invitation.